Voilà, ça va un peu de soi hein, pour la première action, mais c'est vrai qu'on avait, on avait ciblé le télétravail, bien sûr. Télétravail, alors effectivement, action structurante, on l'a vu. Quand même, hein, réplicable, ben oui, d'ailleurs, c'est mis en place un petit peu partout. Faisabilité à court terme, ben, très court terme, puisque ça préexiste. Alors, c'est vrai qu'on avait pris ce défi, mais on l'a changé en mettant contribuer, à encourager et continuer à promouvoir le télétravail, puisque effectivement, c'est déjà en place. Bon, ben, les actions, c'est inciter les organisations publiques et privées à favoriser le télétravail lorsque c'est possible. Favoriser aussi la mise en place d'espaces de coworking partagé, de télétravail, c'est à développer, alors sur un territoire tant urbain, mais aussi ruraux. Effectivement, on parle de milieu urbain, milieu rural, c'est souvent encore plus utilisé et plus utile, hein. Et là, c'est pareil, ça évite de contribuer à se déplacer des kilomètres pour les travailler. Et puis, une petite idée qui avait été déjà soulevée à la réunion 1, qui était la mise à disposition, mais justement, de locaux laissés vacants grâce au télétravail. Qui peuvent à la fois servir alors, que les gens qui occupent ces postes ne se déplacent pas, mais qui peut limiter les déplacements d'autres travailleurs, effectivement, voilà. Donc double bénéfice. Les pilotes, ben, c'est tout le monde. Alors évidemment, on a l'idée, ben, service public, entreprise privée, administration, l'État qu'on a mis un petit peu un chef de file pour favoriser ces actions et justement communiquer là-dessus. Les indicateurs de suivi, ben, c'est les indicateurs de la pratique du télétravail. Alors bon, là je me suis peut-être avancé, mais je pense que l'INSEE a certainement des chiffres là-dessus. Donc voilà, je me dépêche. Très court terme, comme je l'ai dit, conditions de succès, ben, convaincre les directions et les services RH. Hein, voilà. Et puis les besoins à court terme pour accélérer, ben, essentiellement communiquer sur les gains associés à la pratique du télétravail, qui n'est pas forcément encore toujours connu, mais ne serait-ce qu'en termes de structure, chauffage des locaux, etc. Voilà, mais je passe à mes collègues pour les autres sujets.
Merci. Est-ce qu'il faut aller plus vite ou est-ce que
oui, bah,
pour
oui.
Les descriptifs et les pilotes principalement, on peut oublier surtout la première feuille, on va dire, et après, voilà.
Alors la deuxième action qu'on a souhaité mettre en avant, c'était pour optimiser et réduire le nombre de déplacements, c'était de développer et de promouvoir des pôles de services de proximité et des pôles multimodaux. Donc au niveau des pôles de services de proximité, on pense bien sûr à tout ce qui est commerce, mais aussi à tout ce qui est administration. Santé et pourquoi pas culture. Donc là, au niveau des acteurs impliqués, bah, c'est bien sûr les collectivités, l'État et les gestionnaires de transport pour l'aspect multimodal. Au niveau des conditions de succès, bah, il faut bien sûr une volonté politique pour réussir à associer les entreprises et un financement pour accompagner, réussir à pérenniser ces pôles.
Merci.
Alors, pour continuer sur le défi 1, mais qui va probablement un petit peu mordre le défi 2, mais parce que nous pensons que inciter les citoyens donc à optimiser, réduire les déplacements, c'est de notre point de vue surtout optimiser les déplacements. Donc rapidement, donc une action sur en lien avec l'amélioration de la cohérence urbanisme transport, essentiellement pour répondre aux besoins de mobilité des citoyens, quel que soit leur territoire et leur lieu de vie. Il y a des problématiques d'infrastructure, il y a des problématiques d'implantation d'activités, donc toujours au droit des infrastructures de transport, et puis une problématique de plan local d'urbanisme qui doit évoluer pour optimiser en fait cette cohérence. Les pilotes, les collectivités, les services de l'État. Voilà, et puis alors évidemment on est plutôt sur des actions plutôt qui pourraient démarrer dès maintenant avec une concrétisation 2030, donc on est sur du court à moyen terme suivant les quatre en fait les quatre actions proposées, donc sur donc cette amélioration de la cohérence de l'urbanisme et du transport. Le deuxième élément incitatif, c'est d'adapter la tarification des transports collectifs pour inciter donc les citoyens à des déplacements plus vertueux. Donc proposer une tarification des transports en commun compétitive relative à l'usage de l'automobile, moduler les tarifs peut-être en fonction du jour de la semaine, sensibiliser les usagers au coût réel et complet de l'usage de la voiture. Sur les pilotes, les autorités organisatrices de la mobilité, et on est sûr, quand on est en mode sensibilisation sur du court terme et du moyen terme, plutôt pour les deux autres actions. Voilà, et à chaque fois, les conditions de succès, impliquer les citoyens, potentiellement les associations et les collectivités. Voilà,
merci beaucoup. questions maximum. Est-ce qu'il y a des questions ou réactions ou autres sur ce premier défi?
Vous n'avez pas identifié des actions sur le logement, faciliter l'accès au développement des...
On est sur la cohérence urbanisme.
On parlait des PLUI, mais en fait, si possible, PLUI HD, c'est-à-dire avec l'habitat et le déplacement. C'est vrai qu'on, voilà. Mais c'était inclus, effectivement, là, c'est qu'on puisse effectivement rapprocher les liens de vie et d'activité pour éviter au maximum de ne pas se rapprocher. Donc, c'était quand même aussi un point très finalement de l'issue. Ça ne va pas forcément pas apparaître.
Merci.
Une
question? Très bien. Merci beaucoup pour le groupe 1. Je propose qu'on passe au groupe 2. De la même façon, vous avez 5 minutes et on insiste sur les descriptifs et les pilotes.
Action numéro 1, du coup.
Numéro 1.
Oui, j'espère.
Numéro 1, c'est moi qui l'ai. Donc, l'action numéro 1, ça s'appelle promouvoir le covoiturage et les alternatives à la voiture. L'idée, c'est une communication positive à travers tous les médias possibles pour démystifier le report modal et le rendre plus accessible et, à contrario, ringardiser l'autosolisme. Comme pilote, on voyait très bien la région, comme chef d'orchestre de cette campagne de com, et comme contributeur, les autorités organisatrices de la mobilité, SNCF Voyageurs, les communes elles-mêmes pour la communication locale, et le département. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions de succès? Évidemment, ça ne peut se faire que si le report modal vers le train, c'est à condition que la qualité de l'offre ferroviaire soit au rendez-vous, ce qui nous renvoie à la prochaine action. On a fait quelques considérations sur la tarification des transports en vélo, etc. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tout le détail. On considérait que l'action pouvait être réalisée à très court terme et que c'était réplicable à grande échelle sur toute la région et que c'est pas excessivement structurant. On va s'arrêter là.
On a tout dit.
La deuxième action retenue, c'est les aménagements et les stationnements aux abords des pôles d'échange multimodal. Donc le descriptif de l'action, c'est on mise sur des consignes vélo, des parkings voitures avec les deux, avec des tarifications adaptées pour les abonnés et une signalisation simple. La condition, c'est des gares routières et ferroviaires à proximité et un accès piéton sécurisé à l'intérieur du pôle d'échange multimodal. Le pilote, on a nommé à nouveau la région en tant que chef d'orchestre avec des contributeurs que sont les AOM, quelles qu'elles soient, les communes, le département et les gestionnaires de gare. Indicateur de suivi, nombre de places de parking et de consignes vélo par gare, le taux de remplissage et de façon répliquée, l'emport vélo en baisse dans les trains, si on fournit tout ce qu'il faut dans les gares. La temporalité, évidemment, ça passe par un plan de priorisation, mais qui doit déjà exister. Les PEM, c'est quelque chose de déjà existant, et l'aménagement autour, mais aller encore au-delà avec une recherche de foncier et de financement. Les conditions de succès, ça serait vraiment la sécurisation des zones du PEM. Donc ça, on insiste là-dessus pour que les gens n'aient pas de frein à utiliser les aménagements autour des PEM. Et un prérequis, c'est l'étude de dimensionnement des flux de la gare pour dimensionner les parkings. Ça nous paraît être une action très structurante, moyennement réplicable et pas tellement faisable à court terme parce que ça nécessite beaucoup d'études et de financement.
Tu veux faire tu veux faire
ça? Oui, tu feras la dernière. Comme tu veux. Alors, une autre action dans ce groupe est priorisée, c'est développer, renforcer les offres et services de mobilité du quotidien. Donc là, on embrasse large, que ce soit des offres urbaines ou ferroviaires, mais grosso modo, l'idée, c'est d'adapter les offres et services à chaque spécificité des territoires. On place les réseaux structurants ferroviaires et car en dorsale. on les cadence, on fait de l'amplitude horaire, on interconnecte lorsqu'il y en a des réseaux urbains de transport de masse ou autres réseaux structurants urbains qui existent en local, toujours avec des cadencements de l'amplitude. On organise bien sûr le rabattement et les diffusions, là on vient d'en parler avec l'action sur les pôles d'échange, donc et globalement on coordonne l'intermodalité, gestion des correspondances entre les réseaux, notamment pour les offres et des services, et on crée du service et on renforce tout ce qui est entre guillemets masse, information, tarification pour simplifier le parcours. Un autre sujet qui nous a apparu important dans ce cadre-là, c'est rendre les offres de transport lisibles pour les usagers. Lisibles, c'est les horaires, principalement. Voilà. Alors, après les acteurs impliqués, on a l'ensemble des AO, avec les gestionnaires notamment de gare, les collectivités aménageurs, mais ça, on rentre dans le chapitre pôle d'échange qu'on vient d'exposer, donc on ne va pas détailler davantage. Les indicateurs de suivi sur la quantification des évolutions d'offres, évidemment. La fréquentation, parce qu'il faut adapter l'offre et la demande en permanence. Temporalité, bien sûr, là, on est sur des temporalités hétérogènes parce que selon les modes de transport, on aura une facilité à faire du rabattement en mode actif, à organiser le mode actif. Il nous faudra plus de temps pour développer une offre ferroviaire, voilà, en fonction des potentialités, de la capacité du réseau. Mais on peut faire du car un peu plus rapidement. Enfin, tout ça, ça s'échelonne dans le temps. Il y a déjà des choses qui sont à l'œuvre sur ces sujets-là, puisque tout c'est une dynamique pour chacune des AO qui ont ces plans de développement de leur offre. Ce qu'on veut faire à court terme, ce qu'on s'est dit, c'est davantage faire de promotion. On revient toujours sur des actions de promotion parce qu'on part pas de rien. On a des offres qui sont déjà à l'œuvre et qui sont déjà très denses. Et souvent, c'est des fois des actions de promotion qu'il faut davantage mettre en œuvre. Par exemple, vous pouvez rejoindre Valence en 30 minutes. C'est une façon de faire une promotion de réseau sur une desserte ferroviaire, mais ça peut très bien se mettre un peu plus au niveau local, la Doua, Confluence en moins deux, etc. Mieux informer, et ça c'est...
Un petit peu, si vous voulez, c'est déjà 6 minutes.
Voilà. Les conditions de succès, il y en a plein. La complémentarité des modes, la gouvernance adaptée, la planification en termes matière d'aménagement urbain, des contraintes sur l'autotourisme, on en a parlé, la promotion, on en a déjà parlé, et la fiabilité de service. Et les besoins de court terme, moyens financiers, ingénierie, moyens humains. Voilà.
Merci.
On a fait le tour.
J'ai essayé d'être rapide. Donc, notre quatrième action, c'est poursuivre les investissements dans les infrastructures et équipements ferroviaires. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de maintenir les investissements qui existent déjà, de les renforcer et de prioriser la programmation financière. Cette programmation, elle doit être faite avec une vision prospective parce qu'il faut anticiper et maîtriser les évolutions de l'infra face au changement climatique pour stabiliser aussi l'infrastructure et le service qui est associé. Tout en poursuivant les objectifs de développement de la capacité, donc on investit pour développer la capacité et s'adapter à la demande. Évidemment, on développe là où il y a de la demande. Les pilotes, donc les différents gestionnaires d'infrastructures et d'équipements, avec en contributeur les cofinanceurs qu'on a vus comme classiques, on va dire, mais aussi des nouvelles ressources financières, pourquoi pas être créatif en la matière. Associer les AOM beaucoup plus et les autres utilisateurs de l'infrastructure et des équipements. Indicateurs de suivi, on propose peut-être, alors on n'a pas écrit, mais un peu plus de transparence sur la programmation financière, qui investit quoi, et surtout être transparent en matière de régénération, de modernisation et de développement. Pas que de développement, mais aussi dire tout ce qui est fait en matière de régie. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps.
Non, oui,
et bien on va s'arrêter là, voilà.
Merci beaucoup.
Bravo.